un temps pour lire.
Nous allons parler aujourd'hui de la parution du dernier livre de Gilles Paris, mais pas que, vous allez le découvrir dans cette émission. Il s'agit du roman intitulé « Le bal des cendres » paru chez Plomb. Et si ce roman a attiré mon œil, mon attention, il est vrai que c'est parce que Gilles Paris est également l'auteur du livre « Autobiographie d'une courgette » qui fait certainement écho chez un certain nombre d'entre vous, auditeurs. Gilles Paris, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à quelques questions au micro de Radio Semnose. Quand on parcourt votre biographie, moi j'ai eu le sentiment d'avoir affaire à quelqu'un qui a la bougeotte. Alors je ne sais pas si c'est vrai, qui a besoin d'une certaine dose d'activité pour être en vie. Et quand j'ai écrit ce « en vie », en fait, je me suis aperçu que ça pouvait être sous deux formes différentes, en un seul mot ou en deux mots. Est-ce que cela vous correspond ou est-ce que c'est juste une vue de l'esprit de ma part ?
Non, c'est vrai, j'ai la bougeotte, j'ai toujours eu envie de faire plein de choses. Je suis très curieux de nature, je suis très curieux de découvrir l'autre, de découvrir des pays, de découvrir des lieux, des endroits, des gens. Mais en même temps, je me définis comme un actif qui adore ne rien faire. C'est-à-dire que j'ai beau, courir dans tous les sens et faire un maximum de choses, quand je me pose, j'ai l'impression que je me rassemble en même temps et que je récupère une forme d'énergie pour pouvoir repartir ensuite.
Donc vous faites ces va-et-vient régulièrement, si je comprends bien.
Oui, avec des pauses aujourd'hui, parce que je trouve que c'est important dans le chaos du monde qui est le nôtre, d'apprendre à faire des pauses. On peut faire plusieurs choses à la fois, on peut être entre guillemets débordé, mais il est important de garder des déjeuners pour soi, de continuer à faire du sport deux fois par semaine, de se balader dans Paris, je vis à Paris, de se balader dans Paris, la tête en l'air à regarder ce qui se passe dans les immeubles, s'asseoir à la terrasse d'un café et observer les gens, ça donne toujours des idées pour un roman.
Dans votre écriture, j'ai aussi le sentiment, pour le peu que j'en connaisse, parce que je n'ai pas lu tous vos livres, il y en a un certain nombre aujourd'hui, j'ai la perception aussi d'un sentiment d'urgence, comme s'il fallait absorber la vie, la manger, avant qu'elle nous dévore.
Oui, c'est tout à fait juste, c'est quelque chose qui me convient très bien. Je crois que dans tous mes romans, en fait, c'est des romans qui traitent de thèmes difficiles, du dysfonctionnement familial, de l'enfance maltraitée, de la maladie, de la mort d'ailleurs, souvent aussi. Et en même temps, j'ai toujours voulu m'intéresser non pas aux drames, aux épreuves ou aux dangers, mais à ce qu'on en fait, c'est-à-dire cette capacité incroyable qu'on peut avoir, sans être un héros, à faire face à certaines épreuves, à certains drames de la vie, pour pouvoir continuer à avancer justement et continuer à rester aussi actif dans la vie, parce que la vie est très courte et elle passe très vite.
Alors nous nous rencontrons, Gilles Paris, aujourd'hui dans le cadre du Festival du film d'animation, cette émission est diffusée un petit peu après. En 2022, votre livre « Autobiographie d'une courgette » fête son 20e anniversaire. Et oui, déjà, il s'agit de l'histoire d'un enfant placé en maison d'accueil qui a rencontré un grand succès, ce livre-là, puisqu'il a été adapté en bande dessinée au cinéma en 2016 avec Claude Barras. Et en cette année 2022 au Festival, c'est la Suisse en plus qui est l'invité d'honneur. Tout cela tombe bien, il y a une certaine coordination, synchronicité. Ce film a été primé à Annecy et dans bien d'autres endroits. Et puis en plus, en 2022, votre livre « Autobiographie d'une courgette » est adapté au théâtre. Oui. Ça fait beaucoup pour vous, Gilles Paris.
En fait, c'est un vrai cadeau du ciel, ce livre qui est paru il y a 20 ans. D'abord, c'est rare qu'un livre dure autant. Vous savez, dans l'édition, tout va très vite. Un livre chasse l'autre, les éditeurs publient énormément. Donc pour qu'un livre se maintienne comme ça et continue à exister à travers des adaptations très différentes, celle de Pamela Ravassar au théâtre est très très fidèle au livre avec un orchestre sur scène, c'est très beau à voir vraiment. Elle va aller à Avignon tout l'été au théâtre des Béliers et puis il y a une quarantaine de villes entre septembre 2022 et avril 2023. Et moi j'aime que le livre m'échappe ainsi, c'est-à-dire que, vous savez, moi j'ai toujours considéré, même Claude Barras était un lecteur avant tout, les gens qui vous adaptent sont des lecteurs avant tout et ils projettent quelque chose d'eux-mêmes. C'est comme s'ils s'emparaient d'une œuvre pour en faire la leur. Et je trouve ça assez magique, parce que ce sont des gens talentueux. Claude Barras a fait un film remarquable pour enfants, à partir de 7 ans, je rappelle que j'écris pour adulte, donc il a dû adoucir certaines scènes du livre, tandis que Pamela Ravassar, pour sa pièce de théâtre, l'a délivré exactement tel que le livre l'a montré quand il est paru en 2002.
Si j'ai bien compris, ce livre n'est pas autobiographique, mais néanmoins, il parle de vous.
Il n'est pas autobiographique, en effet. Je ne suis pas Courgette, comme on a pu le penser à un moment donné. J'ai eu la chance d'avoir une enfance plutôt heureuse, dans une famille bourgeoise, avec un père architecte. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai nommé le petit garçon Icare, parce que Icare, c'est celui qui s'approche trop du soleil, mais ce qu'on ignore, c'est que le père d'Icare était architecte. C'était une façon ou un clin d'œil que je pouvais donner à mon père. Et je trouve qu'en même temps, les choses vous échappe d'une certaine manière, parce que le succès reste aussi une sorte de malentendu. Pourquoi celui-là et pas un autre de mes livres? Il faut l'accepter, au fond, le vivre pleinement, parce que c'est quand même quelque chose... C'est très étonnant, les gens vous regardent autrement, il se passe des choses quand même très très bizarres hein, face à un succès. Et il faut garder aussi, d'une certaine manière, la tête froide par rapport à tout ce qui s'est passé. Quand il a évidemment obtenu 2 Césars, j'étais fou de bonheur, notamment celui de l'adaptation. Et je suis tout ça de près, et je suis un peu comme un enfant face à une vitrine de pâtisserie. C'est à peu près la même chose qui m'arrive depuis 20 ans. Il y a eu une adaptation à la télévision aussi, en 2007, qui est l'année où Claude Barrás a acheté les droits, et il a mis 9 ans pour trouver les financements du film tel qu'on l'a vu tous, tel qu'il est apparu. Voilà, ça montre que tout ça repose quand même énormément sur du travail.
Vous parlez à des adultes, vous écrivez pour des adultes, mais avec un regard d'enfant ?
Oui, c'est ce que j'ai voulu faire. Mes 4 premiers romans sont à hauteur d'enfant. Que ce soit Courgette, le premier c'était Jean-Jean, le troisième c'était Simon et le quatrième Victor. 4 garçons dans des milieux sociaux très différents. J'ai voulu varier évidemment la donne et montrer que l'enfance en fait se fiche éperdument des barrières sociales et qu'un enfant, qu'il soit bien élevé ou pas élevé, finalement, demande un peu les mêmes choses. Un enfant de 9-10 ans n'exige rien. En général, il est très curieux et il veut comprendre. Ce serait presque une définition avant l'heure de la tolérance. Donc moi, c'est un âge qui m'a fasciné pendant un certain temps. Et je trouvais en plus que ça dédramatisait les thèmes qui étaient les miens. C'est-à-dire que si j'avais raconté Courgette par la voix d'un adulte, ça n'aurait jamais été le même livre.
Gilles Paris, pour votre dernier roman, Le bal des cendres, vous avez choisi de nous emmener en vacances, en quelque sorte,
c'est le cas,
à Stromboli. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce lieu-là et ce moment-là ?
Stromboli est une île très spéciale. C'est une île éolienne qui est au nord de la Sicile, qui est une île à la fois après rude. Elle a toujours été une île de pêcheurs. Roberto Rossellini y a tourné un film qui s'appelle Stromboli, d'ailleurs, avec Ingrid Bergman, en 1949. Le film est sorti en 1950. C'est un véritable petit chef-d'œuvre, ce film qui est absolument incroyable et qui montre Stromboli tel qu'il était autrefois et tel qu'il est un peu resté, parce que Stromboli a résisté, si vous voulez. Il n'y a pas d'hôtel de luxe, il n'y a pas de boutique de luxe, il n'y a rien de tout ça. Il y a des plages noires avec des transats rouges, c'est très beau d'ailleurs, mais quand vous faites un pas en avant dans l'eau à 1 mètre du bord, eh bien vous n'avez plus pied. Donc ce ne sont pas des plages familiales, ce sont les familles de Stromboli qui d'ailleurs continuent à y aller, et non pas les touristes. Et je trouve que cette île a à la fois un charme très spécial, très mystérieux. C'était un décor idyllique. Et puis surtout, son volcan qui est toujours en activité, qui éructe littéralement toutes les 5 minutes. Si vous êtes assez près du volcan, la terre gronde hein, sous vos pieds. C'est quand même très, très impressionnant. Et je me disais qu'au fond, le volcan n'est pas seulement dans la montagne, il est aussi en chacun de nous. Et j'avais envie, justement, de confronter un certain nombre de vacanciers qui viennent du monde entier dans cette île, qui atterrissent dans un hôtel qui s'appelle le Strangile, qui est un ancien nom de Stromboli, qui est un nom ancien, qui est un nom grec qui désignait l'île comme la ronde, puisqu'elle s'étale un peu comme une ronde, d'où le nom de le bal des cendres aussi. Pour faire un bal, il faut quand même beaucoup de personnages, ce qui est le cas de ce livre, et justement de les confronter au volcan pour faire comme une sorte de caisse de résonance sur leur propre vie.
C'est donc une île brute. Vos protagonistes ici hein, sont invités à se découvrir eux-mêmes, j'ai l'impression. C'est un livre choral, vous disiez, il y a beaucoup de personnages, de brefs chapitres, et on alterne entre chacun d'entre eux qui font au fur et à mesure des découvertes sur les autres et sur eux-mêmes. Qu'est-ce qui va se passer sur cette fameuse île ? Vers quoi est-ce que vous avez eu envie d'emmener le lecteur ?
En fait, la première partie, c'est un peu la rencontre, l'atterrissage, on va dire, de tous ces touristes qui viennent dans cet hôtel qui s'appelle le Strangile, qui est un hôtel charmant tenu par un père et sa fille, et l'associé du père. Et les gens apprennent à se connaître, le lecteur apprend à les connaître aussi. La deuxième partie, c'est l'ascension du volcan, puisque quand on vient à Stromboli, on escalade le volcan, c'est ce qui va leur arriver, mais dans la descente, sur le versant de la descente, en pleine nuit, en quelque sorte, le volcan va se réveiller et ils vont se retrouver sur un échiquier totalement piégé. C'est une pente à 60%, ils ne peuvent pas courir, ils ne peuvent pas marcher, ils ne peuvent pas s'échapper. Donc c'est au petit bonheur la chance pour ceux qui vont pouvoir en rescaper. Et leur destin va changer. Quand on est face au danger, au fond, et qu'on s'en échappe et qu'on reste vivant, tout change, les priorités changent, elles ne sont plus les mêmes. Et donc c'est pour ça que le destin de ces vacanciers et leurs secrets dans la troisième partie vont se révéler.
Vous avez vous-même, Gilles Paris, passé 4 années à écrire ce roman, et 4 années aussi, me semble-t-il, à vivre sur cette île, en tout cas à y aller, à la fréquenter. Je ne sais pas si c'est à l'apprivoiser, peut-être est-ce que c'est l'inverse, est-ce que c'est elle qui vous a apprivoisé?
Non, un peu des deux, je crois que j'y suis allé 2 fois en fait, 10 jours, et que j'y allais pas pour écrire, j'ai écrit après, j'y allais pour, avec mes petits carnets, j'ai beaucoup de petits carnets quand je travaille, j'y allais pour voir les habitants, voir un vulcanologue, voir un historien qui m'a montré l'île à la fois de l'intérieur et de l'extérieur par bateau. Je suis allé escalader le volcan, évidemment, j'en avais besoin pour les personnages du livre. J'ai rencontré des habitants, des descendants, on va dire, de grands-parents siciliens qui avaient acheté des terrains et des maisons. Une maison magnifique sur laquelle j'ai d'ailleurs construit dans ma tête l'hôtel Strongile. Et c'est vrai que chaque fois que j'y suis allé, c'est un petit peu ce que vous disiez au départ, c'est-à-dire que j'étais d'une activité absolument fébrile. Je me levais très tôt le matin, j'allais me balader le long des sentiers, je prenais des photos aussi, parce que ça, alors même si les photos restituent pas la senteur, il y a des bougainvilliers magnifiques, il y a du jasmin, il y a plein d'odeurs dans Stromboli que je voulais immortaliser et dont je voulais me souvenir. J'ai escaladé le rocher de Strombolicchio, les 200 marches un peu branlantes pour arriver en haut, cette végétation qui n'existe que là. J'ai possédé d'une certaine manière pendant un certain temps l'île, je l'ai apprivoisée et elle m'a apprivoisée aussi, parce que j'ai passé 2 fois 10 jours absolument exquis à découvrir une île à Prérude qui garde son identité d'île de pêcheur.
Dans le résumé de ce livre, il est question de libération. Est-ce qu'il y a une dimension de cet ordre-là, aussi bien pour vos protagonistes que pour vous-même?
Oui, toujours. De toute façon, la libération exprime le soulagement. Moi, j'aime les fins heureuses. J'aime... Dans Courgette, je me souviens, mon éditrice à l'époque m'avait dit que la fin était trop heureuse. Mais moi, je voulais une fin feu d'artifice avec les 2 enfants adoptés par le gendarme dans Courgette. Et je trouve que quand on traverse comme ça des moments difficiles dans un livre, les fins heureuses, non seulement rassurent le lecteur, mais l'écrivain que je suis.
Ce sont des fins heureuses, mais pas des fins naïves. Et c'est ça ce qui est appréciable, me semble-t-il.
Oui, parce que j'aime faire réfléchir le lecteur. C'est-à-dire que j'aime bien que le livre le hante pendant un certain temps et qu'il y réfléchisse, justement. Je détesterais savoir qu'une fois le livre fermé, on l'oublie et on passe à autre chose.
Gilles Paris, vous disiez que vous vous adressez à des adultes, mais que vous parlez d'enfance. Et moi, je retiens une question posée justement par un enfant dans ce livre, Le bal des cendres. Il pose la question donc suivante. Pourquoi plusieurs vies alors qu'une seule suffirait au bonheur? Moi, ça m'amène à plein d'autres questions, évidemment. Pourquoi est-ce qu'on est finalement éternellement insatisfait, peut-être?
Insatisfait, je crois pas, je sais pas, je dirais pas ça comme ça. Je crois que l'enfant a raison, évidemment, mais qu'on a besoin, adulte, d'avoir plusieurs vies pour avoir le sentiment d'exister. Et c'est important, on cherche à donner un sens à sa vie, c'est pas toujours évident. Et cette multiplication, au fond, de vie, c'est aussi peut-être une fuite contre la fin des jours, contre la mort, contre ce qui nous attend plus tard. Et c'est une manière de ne pas y penser et d'occuper son temps et d'accaparer le terrain.
Je ne sais pas pourquoi, ça me fait tout à coup penser à une phrase de Michel Boujna qui parle dans certains de ses spectacles de la nécessité de se rassembler. Il y a aussi ce besoin-là ?
Oui, je pense. Alors pour un écrivain, dans sa propre vie déjà, c'est très important de savoir se rassembler. Et dans ses textes aussi, c'est-à-dire que moi j'ai toujours appris qu'un bon roman, c'est une bonne histoire avec un style. C'est-à-dire autrement dit, quand vous lisez un écrivain, vous devez reconnaître sa patte. Vous devez reconnaître son écriture, vous n'avez pas besoin du nom sur la couverture du livre pour savoir que c'est un livre de... Un écrivain qui a réussi ça, c'est quelqu'un qui a un véritable univers aussi et qui sait le tenir. Et c'est important pour un écrivain de penser à ça assez régulièrement.
Eh bien, nous vous invitons à la lecture de ce « Bal des cendres », hein, « Le bal des cendres » paru chez Plon de Gilles Paris. Dernier roman de l'auteur aussi de « Autobiographie d'une courgette ». Je fais ce rapprochement et peut-être que je n'aurais moi-même pas fait attention à votre livre s'il n'y avait pas eu courgette auparavant.
C'est possible.
Merci beaucoup Gilles Paris d'avoir partagé ce moment-là avec nous et de nous inviter à découvrir un autre univers, mais en fait nous-mêmes à travers ce livre. Merci beaucoup.
Merci infiniment.